Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, Matière à penser, ce soir encore consacré à préhistoire et modernité. La préhistoire, disait Lucien Febvre, est l'une des notions les plus cocasses qu'on puisse imaginer. Préhistoire, ça veut dire qu'elle prétend éclairer l'époque précédant l'écriture et donc prendre en charge 99,7% des 3 millions d'années d'évolution humaine. Alors, on a commencé avec François Bon, hier, à parler du paléolithique. Et ben là, on va progresser. On va progresser en parlant néolithique avec Jean-Paul Demoule. Bonsoir Jean-Paul Demoule.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous êtes professeur émérite de proto-histoire européenne à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes archéologue et historien. Vous êtes engagé aussi dans la cité pour défendre l'archéologie. On va parler de votre rôle dans l'archéologie préventive. Mais vous venez de publier chez Flammarion un livre « Trésor ». Les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie. Mais je croyais que justement, un archéologue, ça ne cherchait pas des trésors.
Oui, bien sûr, c'est un titre au second degré, et je m'en explique dans la préface, même si effectivement Indiana Jones fait rêver tout archéologue, d'autant qu'il a affaire aussi bien à la jalousie de ses collègues qu'au poids de l'administration qui lui perd même l'arche une deuxième fois perdue. Donc ce livre, au-delà de ce clin d'œil, effectivement. Et là, un peu une anthologie des chroniques mensuelles que je fais dans la revue Archéologia, qui essaie d'éclairer à chaque fois un problème autour de l'archéologie et de montrer que l'archéologie, c'est pas juste s'intéresser à des vieilles choses dans des vitrines poussiéreuses ou à des trésors, mais que ça permet de poser aussi des problèmes de notre temps.
Ce qui dit déjà votre engagement dans cet effort collectif et public de rendre visible et désirable l'archéologie, Jean-Paul Demoule. Mais enfin, quand même, vous commencez par la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 et évidemment cette question fameuse à l'égyptologue Howard Carter. Alors, vous voyez quelque chose? Oui, des merveilles. Bah, vous vouliez être égyptologue comme tout le monde.
Bien sûr, comme la plupart des enfants et tous les archéologues ne cessent de rencontrer des gens qui leur disent, sachant leur métier, ah, j'aurais tellement voulu être archéologue. Ça fait partie effectivement des métiers qui font rêver.
Alors comment on le devient malgré tout? En cessant d'être un enfant.
Ben, je pense qu'il faut être un peu obsessionnel comme moi. Simplement, effectivement, je ne l'ai pas suivi de manière complètement droite puisque je rêvais de l'archéologie égyptienne, également grecque. J'ai fait le cursus pour préparer l'école d'Athènes et la préparant à la fin des années 60, j'ai trouvé que c'était une vision tellement archaïque, tournée uniquement vers l'histoire de l'art, que je me suis réorienté. J'avais déjà commencé à lire des livres comme ceux de Gordon Child sur les périodes plus anciennes. Je me suis réorienté donc vers le néolithique, la proto-histoire en général.
En Europe ?
Principalement en Europe, mais on doit tenir compte aussi des régions un peu alentour, parce que le néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture sédentaire, ne se passe pas en Europe. Il se passe dans plusieurs foyers indépendants, il y a à peu près 10-12 000 ans, et concernant l'Europe, il se passe au Proche-Orient. Donc, et ensuite, il va se diffuser dans différentes directions, et on est obligé aussi de regarder à une échelle un peu plus large, parce que le modèle auquel nous sommes habitués par rapport au Proche-Orient, on invente l'agriculture, la sédentarité, puis la poterie, puis etc. Il peut être très différent dans d'autres régions du monde. Par exemple au Japon, avec la civilisation de Jomon, on a d'abord inventé la poterie, puis la sédentarité, et puis la complexité sociale, et au bout de 10 000 ans seulement, l'agriculture.
Ce qu'on comprend aujourd'hui avec l'archéologie, Jean-Paul Demoule, c'est que justement il faut peut-être passer d'une conception arborescente ou linéaire de l'évolution à une conception buissonnante, c'est-à-dire que la néolithisation des sociétés a pu s'inventer à plusieurs endroits en même temps. C'est un des enjeux aujourd'hui de la compréhension de, des sociétés néolithiques.
Oui, c'est globalement ce modèle, comme vous disiez, de linéaire ou d'arbre, qui a longtemps pesé sur les sciences, sur les sciences humaines. On s'aperçoit qu'il n'est pas très opérationnel, déjà même pour les espèces humaines. Vous allez voir que c'est plus la file de singes qui se redresse et qui aboutissent à l'homme blanc et barbu, mais que c'est un bruit et que c'est la première fois qu'on est une espèce orpheline, donc il y a toujours eu plusieurs espèces humaines. Et bien, de même, dans les trajectoires des civilisations plus tard, c'est pas le modèle purement diffusionniste, migrationniste, et marche parfois, évidemment, mais l'agriculture est inventée de manière autonome à un moment qui est sans doute le fait que c'est la première fois que Homo sapiens, avec un cerveau déjà plus complexe, puisque c'est seulement à partir de 40 000 ans qu'il commence à figurer, se trouve dans un environnement, pour la première fois dans un environnement favorable, qui est celui de l'actuel interglaciaire, puisque on était dans une glaciation depuis 115 000 ans, et là on a ces circonstances favorables qui font que ça apparaît dans plusieurs endroits du monde, avec des espèces animales et végétales différentes.
Des rythmes différents et
Des rythmes différents, des expérimentations diverses, des retours en arrière, et c'est pas non plus soit l'un, soit l'autre. Les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique avaient déjà domestiqué le chien il y a 15 ou 20 000 ans, donc le principe de la domestication était connu.
Les nomades peuvent aussi établir des camps plus ou moins durables.
Oui, absolument, dans les environnements type steppique, par exemple.
Et justement, il y avait un autre dilemme ou une autre controverse sur la question du néolithique, c'était de savoir au fond comment ça s'était diffusé, comment cette expérience s'était partagée. Est-ce que de proche en proche, on s'échangeait la technique, ou est-ce qu'il y avait eu une migration néolithique? Et vous êtes plutôt aujourd'hui favorable à cette deuxième hypothèse.
Oui, dans ce cas précis, je suis
pour l'Europe.
Pour l'Europe. Je suis plutôt migrationniste pour une partie de l'Europe, pas pour tout, parce que vraiment on peut suivre de proche en proche depuis la Turquie jusqu'à l'Atlantique, quasiment kilomètre par kilomètre, cette progression qui a pu être modélisée, qui est confortée aussi par les premières analyses génétiques, et qui correspond vraiment à un phénomène tout à fait indéniable, et avec d'autres arguments. Le mouton, chèvre, le blé et l'orge n'existaient pas à l'état sauvage en Europe. Alors, bien sûr, ça se heurte des fois avec un peu un nationalisme. Mes amis grecs n'aiment pas que le néolithique vienne de Turquie. En France, longtemps, on n'aimait pas qu'ils viennent d'Allemagne, etc.
Et en fait, ils viennent beaucoup plus loin.
Oui, en fait, ils viennent plus loin, et dans les Européens actuels, une bonne partie de leur patrimoine génétique vient effectivement du Proche-Orient.
Vous êtes évidemment conscient, on va parler de cette préhistoire ou proto-histoire au présent. Vous êtes conscient, Jean-Paul Demoulz, que dès qu'on parle d'une humanité métisse et migrante, dès qu'on rappelle que l'homme est un grand singe migrateur, dès qu'on dit que l'Europe a été colonisée par des sociétés néolithiques du Proche-Orient, d'une certaine manière, on énonce des vérités historiques, mais qui, ou en tout cas des hypothèses historiques, mais qui résonnent immédiatement dans une écoute politique.
Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je suis un lecteur de la presse d'extrême droite, qu'elle soit écrite ou sur Internet, et c'est des théories qui effectivement déplaisent à cette mouvance intellectuelle, y compris même la venue de l'homme d'Afrique. On essaie de trouver des fois des arguments assez laborieux, et pour le Proche-Orient également. C'est clair que ces enjeux, derrière même simplement la réponse de d'où ça vient, etc., c'est la conception même qui est en jeu de ce qu'est une société. Cette idée qu'il y aurait des permanences comme ça, que, comme disait feu le général de Gaulle, la France vient du fond des âges, hein, qui est une phrase qui n'a aucun sens, oui, dans la mesure où il suffit de regarder la succession des cartes représentant la France. Il faut attendre le XVIIe ou XVIIIe siècle pour que ça ressemble à quelque chose, et c'est de toute façon une agglomération de communautés très différentes qui avaient des langues, des coutumes extrêmement diverses, et c'est la force des rois de France d'avoir réussi cette unification de force. Et il suffit aussi, mais vous êtes mieux placé que moi pour les périodes récentes pour nous, c'est-à-dire les deux derniers millénaires, pour savoir que ça n'a jamais cessé les mouvements de population, et qu'une société, mais on peut l'observer aussi bien archéologiquement, quand ce que nous appelons une culture archéologique, c'est un ensemble de traits matériels, dont certains témoignent aussi de pratiques non matérielles. C'est un ensemble qui va durer quelques siècles, 4-5 oui, siècles en moyenne, et sans arrêt, après, les cartes vont être rebattues. Donc on ne voit rien qu'on pourrait suivre depuis le fond des âges jusqu'à maintenant.
C'est ce qu'on voit à très grande échelle dans ce très beau livre que vous avez co-dirigé aux éditions de La Découverte et à l'INRAP, on va y revenir, oui, une histoire des civilisations, ce que l'archéologie apporte à l'histoire. Et justement, ce qu'elle apporte, c'est d'abord la découverte ou en tout cas la mise en valeur de cette période que, dans un autre livre qui est paru chez Fayard il y a quelques années, vous appelez les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs. Et on voit bien, au moins pour les deux derniers mot de ce sous-titre, que la révolution néolithique, ben aujourd'hui, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on y gagne au fond ? Des caries, de la fatigue, de la domination masculine, la guerre, l'autorité ?
Oui. C'est Patrick Boucheron, une vaste question. Il y a plusieurs manières de l'aborder. Manière pessimiste consisterait à dire oui, on aurait mieux fait de rester chasseur-cueilleur, de ramasser des champignons et des fraises des bois et de chasser des rennes ou des lapins.
C'était l'âge d'abondance.
Voilà, c'est ça. C'était la théorie de l'ethnologue Marshall Salins dans les années 60, et qui appartient à toute une école d'anthropologie qui s'est elle-même baptisée anthropologie anarchiste, avec des qui s'enracine d'ailleurs en partie dans la tradition française avec Pierre Clastres, et qui se poursuit actuellement avec des gens comme James Scott. J'ai fait la préface de la traduction de son dernier livre, ou David Graeber, ou l'égyptologue David Wengrow. Cette idée que effectivement la marche vers l'État n'est pas pavée de roses. Une autre manière de le voir, et c'est aussi ce qu'argumentent des chercheurs comme ceux que je viens de citer, c'est qu'on peut voir archéologiquement également, et ethnographiquement aussi, c'est ce qui est même montré Clastres, des phénomènes de résistance très très réguliers. Oui. Et on voit archéologiquement qu'il y a des périodes où le pouvoir paraît très concentré, ces grands monuments mégalithiques qu'on va avoir en Bretagne, qui demandent des efforts gigantesques, aux alentours de 4000 avant notre ère, ça va durer quelques siècles, et après ça s'effondre, et on voit au contraire des monuments beaucoup plus humbles et avec beaucoup plus de gens à l'intérieur. Et évidemment, dans les périodes historiques, on sait que tout pouvoir contraignant, à un moment ou à un autre, finit par être remis en cause.
Donc le moment mégalithique, c'est un moment qui est au fond assez bref, oui, dans l'histoire des civilisations.
Oui, 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 c'est seulement le grand mégalithisme, c'est effectivement quelques siècles. Mais donc cette question du néolithique, elle est posée aujourd'hui très largement avec la notion d'anthropocène,
oui.
Qui déplaît fortement aux géologues parce qu'ils aimaient définir les âges de la Terre à partir du climat et des roches.
C'est la société humaine, oui, qui se fait elle-même agent géologique, c'est
voilà,
ça l'anthropocène.
C'est les sciences sociales qui se permettent d'empiéter sur les sciences de la nature.
Et depuis quand l'anthropocène, c'est la question. Donc vous dites depuis le...
Je dirais depuis le néolithique, effectivement. Certains vont dire la révolution industrielle.
D'autres aujourd'hui, enfin, c'est les trois hypothèses, ouais. Oui, c'est ça.
Voire l'hypothèse des débuts du capitalisme au sens de Braudel, donc à partir de la Renaissance. Moi je pense que la vraie rupture est effectivement le néolithique, puisqu'on estime qu'il y a 12 000 ans, il y avait à peu près 1 ou 2 millions d'humains sur l'ensemble du globe, et qu'on est passé à 7 milliards en 10 000 ans, c'est-à-dire, comme vous le disiez en introduction, rien. Et ça, c'est uniquement l'effet direct du néolithique, donc de l'agriculture sédentaire, qui a provoqué, c'est maintenant aussi la sixième grande extinction des espèces.
Et cette espèce orpheline, qui est la nôtre, oui, un sapiens, elle-même, assez rapidement, vous le montrez dans votre livre, elle est un agent puissant d'extinction des espèces animales.
Ah oui.
Les grands pandas.
Très clairement, à chaque fois qu'elle va arriver quelque part, elle va éliminer les autres espèces humaines qu'on a pu identifier. Il y en a encore certainement d'autres à découvrir. Et puis, elle va favoriser les espèces qu'elle déclare utiles et éliminer toutes les autres qui pourraient aussi lui être utiles, mais que cette espèce ne mesure pas toujours.
Mais vous qui êtes prompt, Jean-Paul Demoule, à aller chercher de manière un peu malicieuse aussi les origines cachées de nos croyances scientifiques, est-ce que vous croyez pas que cette exaltation du paléolithique, ou au fond cette déploration du néolithique, elle n'a pas des origines plus anciennes, presque bibliques, parce qu'au fond l'agriculture est une malédiction pour l'homme.
C'est dans beaucoup de mythologies, effectivement, l'agriculture c'est la chute. Mais même l'origine de l'homme, des fois, est présentée comme une chute. Tout allait bien, et puis il y a eu désertification de l'Afrique de l'Est, l'homme était obligé de se redresser, etc. Mais l'agriculture, dans beaucoup de mythologies, est présentée comme une chute. On était au paradis terrestre, et à cause de Ève, parce qu'en général, les mots M-A-U-X viennent des femmes, comme Pandore aussi en Grèce, ou comme dans beaucoup d'autres mythologies. Cela dit, dans certaines autres mythologies, c'est quand même des héros mythiques qui apportent les plantes, qui apportent le maïs, etc. C'est pas toujours vécu totalement comme une malédiction. Il faut dire que le maïs est moins difficile à travailler que le blé. Mais cette idée du travail et de l'agriculture comme difficile, effectivement, elle est très ancienne. C'est pour ça que je me situe pas dans une tendance qui dirait on n'aurait pas dû. Je pense que la parole doit rester aux sociétés elles-mêmes et qu'on peut travailler le sol et l'agriculture d'une manière qui ne provoque pas forcément la guerre et les chefs, comme l'indiquait mon livre.
Tout en étant justement attentif, comme vous l'êtes, aux involutions, aux résistances et au fait que cette histoire, encore une fois, buissonne, comme vous le dites, davantage qu'elle file droit. Enfin, quand même, pour revenir à cette question du néolithique, vous y avez consacré toute votre œuvre scientifique, d'historien, de proto-historien, on dit, et d'archéologue sur différents chantiers. Et pourtant, vous dites que ce sont des millénaires, 10 millénaires oubliés dans l'enseignement de l'histoire. C'est un de vos combats, Jean-Paul Demoule, c'est aussi de rétablir, au fond, la continuité du temps historique, de dire qu'il y a quelque chose entre Chauvet et Vercingétorix.
C'est dans la culture. Si on demande à l'homme ou la femme de la rue, vous connaissez les hommes préhistoriques, tout le monde connaît les hommes préhistoriques, Lascaux, etc. Et tout le monde connaît les Gaulois. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Personne normalement constitué n'a une idée extrêmement claire. Et ce qui m'avait motivé pour insister justement sur ces millénaires oubliés, c'est que ça même était dans l'arrêté de 2008 sur l'enseignement scolaire, ça a été complètement retiré. C'est-à-dire que l'arrêté de 2008 disait on a vu la préhistoire, etc.
Donc une préhistoire courte qui s'arrêtait dans les cavernes.
Oui, bien sûr. Et on n'y reviendra pas. C'était écrit.
C'est revenu un peu. C'est revenu dans les programmes.
Mais c'était l'idée qu'on commençait avec les grandes civilisations, ce qui est un sous-entendu idéologique pas complètement innocent, parce que c'est l'idée que l'État, les États, la ville, les rois, l'armée, tout ça va de soi. Et qu'on n'a pas à s'interroger sur la manière dont ça apparaît. Alors effectivement, arrivé. Là, il y a une légère correction en 2016, je crois. On a réintroduit un peu en sixième, enfin le cycle 3, un peu de néolithique.
Enfin, vous êtes un militant de, sinon du néolithique, du moins de la connaissance scientifique de l'âge de fer et plus globalement de l'apport de l'archéologie à l'histoire de la civilisation, ou plutôt des civilisations.
Oui.
Au pays du Berry, quand une fillette a fixé son choix Ouida sur un épouseux, les amis, les parents en habit de fête viennent presser des Ouida d'un cornemuseux. Ohé, ohé, à la fillette on apporte un meilleur nid de ruban. Ohé, ohé, que l'on met devant sa porte comme emblème des amants. Au son de la cornemuse, on danse, on s'amuse et l'on chante jusqu'au jour. Ah, et la cornemuse, souffle jusqu'au jour. Devant tous les épouseux, dites à la fillette, voulez-vous de moi, Ouida, pour votre mari? Répondez par un mot, et baissant la tête, la fillette tout bas, Ouida, répond par un oui. Ohé, ohé, les parents de la fille disent alors au garçon.
France Culture, ohé, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie de Jean-Paul Demoule, quelque chose me dit, en écoutant votre choix musical, que vous êtes berrichon.
Oui, absolument, de souche, et c'est de souche. Sûrement depuis les Bituriges, au moins.
Oui, au moins.
À Varicom, etc. Et donc j'ai choisi à la fois cette chanson comme un clin d'œil à mes ancêtres, mais aussi à cette reconstruction qui procède au 19e siècle, où on va inventer une partie du folklore, et comme l'avait remarqué Anne-Marie Tiss, les costumes folkloriques, en fait, n'ont pu exister grâce à la révolution industrielle, aux cotonnades et aux colorants chimiques.
C'est cela, bien sûr, l'histoire de la préhistoire, c'est cela sa modernité, au fond, oui. En tout cas, cette question de comment on se choisit ses ancêtres.
Oui. Oui, parce que le folklore va se développer en même temps que la préhistoire.
Mais il y a quelque chose de singulier en France, et pas seulement en France, en Europe, c'est que la grandeur nationale, telle qu'elle est rêvée par les élites, vous dites, Jean-Paul Demoule, qu'en fait elle se projette de manière fantasmatique sur la Grèce, sur Rome, et que en France, on néglige, ben justement, non seulement ces siècles de fer, enfin, l'âge de fer, mais même d'une manière générale notre archéologie nationale.
Ben oui, parce que la singularité de la France, c'est d'ailleurs pas le seul pays, mais c'est qu'elle construit son roman national sur une défaite, la défaite de Vercingétorix à Alésia. quand le musée d'Alésia a été inauguré en 2012 par le Premier ministre François Fillon, il a même parlé d'une défaite fondatrice. Alors construire...
Le thème de la défaite civilisatrice, c'est effectivement un grand thème, en fait, dans l'histoire.
Nos ancêtres ne sont gaulois que depuis la défaite de 1870 et l'école républicaine, puisque avant on se revendiquait justement de, c'était l'Orient, la Grèce et Rome, et c'est ça qu'on voit au musée du Louvre, alors que dans tous les autres capitales, on voit toute la l'archéologie du pays. Et c'est ça qui a fait que la France fonde dès 1846 l'école française d'Athènes, et alors que pendant un siècle et demi, l'archéologie du territoire national va être uniquement pris en charge par les notables locaux dans leur société savante. Mais il y a cette défaite des Gaulois par les Romains, puis des Romains par les Francs, puis des Francs qui disparaissent eux-mêmes en quelques générations, puisqu'on parle du français, mais c'est une langue romane. Donc c'est un roman très complexe, beaucoup plus complexe que les Allemands qui vont commencer avec la victoire d'Arminius sur les légions d'Auguste en 9 de notre ère.
Et c'est paradoxal parce que ça veut dire que même si notre roman national, d'une certaine manière, est oublieux de son archéologie. Et voilà pourquoi vous avez été aussi, durant toute votre carrière scientifique et politique, on va y revenir avec la création de l'INRAP, un militant d'une conception non nationaliste de l'archéologie nationale, c'est comme ça qu'on pourrait dire.
Oui, absolument, Patrick Boucheron. On était, quand ma génération, qui est celle de mai 68 ou du baby boom, est arrivée sur le marché du travail, on était effarés, effectivement, par l'état de l'archéologie en France et les destructions générales. Les premiers réseaux autoroutiers ou même la première ligne de TGV construite sans aucune
fouille. On détruisait plus en France qu'ailleurs ?
Oui, bien plus, parce que justement, il y avait ce dédain inconscient, refoulé, etc., du patrimoine archéologique national. Donc, les pays d'Europe orientale ou centrale, avec effectivement aussi l'idéologie de ces pays du bloc de l'Est, mais l'Allemagne, l'Angleterre, étaient infiniment mieux organisés par rapport à ce patrimoine, parce qu'ils avaient un rapport d'identification et de protection beaucoup plus grand que le dédain français.
Et donc vous avez inspiré, on pourrait dire ça comme ça, la première loi sur l'archéologie préventive en 2001, qui a donné lieu à la création de l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive, l'INRAP, que vous avez donc fondé et présidé de 2001 à 2008, Jean-Paul Demoule.
Oui, effectivement, ça a été le combat d'une génération, toutes institutions confondues, université, CNRS, mais aussi nos collègues du ministère de la Culture, dont certains s'enchaînaient devant les bulldozers, etc., avec toutes sortes de manifestations d'occupation de locaux qui ont duré dans les années 70, 80, 90, où à chaque fois le gouvernement répondait en demandant un rapport, donc il y avait au moins une quarantaine de rapports, et un miracle s'est produit en 1998 à l'époque de Catherine Trautmann et Lionel Jospin, où le rapport que j'avais rédigé avec Bernard Pêcheur et Bernard Poignant a effectivement, pour une fois, parce qu'il y avait une conjonction d'une certaine volonté politique et d'une compétence aussi juridique qui a fait qu'on a pu faire cette loi et créer...
Qui concrètement donnait l'obligation aux aménageurs de financer en partie les fouilles dès lors qu'un chantier effectivement exhumait des vestiges.
Oui, c'était on a appliqué le principe pollueur-payeur, du moins pour les aménageurs qui ont les moyens de payer, pas pour les logements individuels, sachant néanmoins que actuellement on contrôle sur les quelques 600 km² qui sont artificialisés, aménagés, creusés chaque année, donc la surface d'un département tous les 10 ans, il n'y a que 20% de ces surfaces qui font l'objet d'une surveillance archéologique.
Ce qu'on appelle le risque archéologique, oui, pour les aménageurs, c'est au fond on risque d'apprendre quelque chose du passé. C'est étrange quand même, conception.
Oui, effectivement. Et on m'a souvent opposé quand je présidais à l'INRAP l'idée que les élus s'occupaient des vivants et moi je m'occupais des morts. Il fallait leur rappeler à chaque fois qu'ils risquaient de pas être vivants indéfiniment, mais qu'ils allaient détruire définitivement le patrimoine de tous les futurs vivants.
Et justement, quel bilan vous tirez de ces années de l'INRAP, Jean-Paul Demoule? J'ai parlé tout à l'heure de ce livre Une histoire des civilisations, oui. qui est aussi d'une certaine manière un bilan, parce que oui. Non seulement coédité par l'INRAP, oui. mais je dirais pensé et au fond encouragé par ces très nombreuses fouilles qui, grâce à vous et à cette génération d'archéologues, ont pu exhumer le plus beau des trésors. C'est-à-dire pas justement quelques objets clinquants, mais de la connaissance.
Non, on a effectivement complètement transformé la vision qu'on pouvait avoir. Pour reprendre uniquement le cas du territoire français, on a pu montrer effectivement que les Gaulois n'étaient pas des sauvages, que le Moyen-Âge n'était pas une longue nuit, mais une première révolution industrielle, etc. Donc le bilan est positif, comme on dit.
On a à peine 20 ans.
Oui.
On a à peine 20 ans, il y a quand même...
Oui. Mais tout n'est pas positif parce que dans les années 2000, quand il y a eu un changement de majorité parlementaire, les gouvernements et les parlements ont voulu introduire l'idée de concurrence.
C'était en 2003
À partir de 2003, mais ça s'est vraiment développé que dans ces toutes dernières années, qui est évidemment complètement un malentendu sur la notion de concurrence. Puisque quand vous voulez acheter, vous, une voiture, un ordinateur, vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, mais l'aménageur qui veut qu'on fouille sur son terrain, il cherche pas la meilleure archéologie possible.
Et pourtant, ça veut dire aujourd'hui, Jean-Paul Demoule, que combien? Il y a 20 à 30% des chantiers d'archéologie préventive qui sont opérés par des établissements privés, c'est ça?
Oui, par des entreprises privées qui ont évidemment, pour emporter le marché, entre guillemets, cassent les prix. Donc l'INRAP est obligé lui-même de s'aligner. S'il baisse trop, on l'accuse de concurrence déloyale, hein, et qui fait que donc tout le monde est perdant, puisque il y a moins de moyens qui sont donnés pour les chantiers. Les collègues archéologues qui sont sur les chantiers, qu'ils soient publics ou privés, ont des conditions de travail qui se dégradent, et les résultats scientifiques aussi vont s'en ressentir. Donc vu de très loin, effectivement, la situation aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle pouvait être il y a 50 ans, mais elle est quand même en train de se dégrader.
Donc vous êtes un archéologue dans la cité, Jean-Paul Demoule, inquiet, vigilant, pourrait-on dire, et qui assez régulièrement prend le chemin des tribunes dans les journaux pour justement nous alerter sur les problèmes en cours. Sur cette question de l'archéologie nationale, par exemple, aujourd'hui, un de vos combats avec d'autres, c'est de nous obliger à regarder l'état du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain, qui est un magnifique musée, mais qui, évidemment, par simplement sa localisation, eh bien, est un petit musée en termes de fréquentation, quelques centaines de milliers de visiteurs, même pas, 6% d'étrangers. Oui. Et vous avez une revendication de ce point de vue-là.
Oui, parce que ce musée est en lui-même un symptôme, hein, puisque quand il est créé par Napoléon III dans un souci justement d'unité nationale ou d'idée d'identité nationale, on le met pas au centre de la capitale où pourtant il y avait de la place. On va le mettre très très loin. Alors maintenant il y a le RER, mais je ne sais pas si vous y êtes allé souvent, mais en tout cas, c'est un peu déjà une expédition. Ce musée a très peu de moyens et aucun des grands travaux présidentiels qui étaient jusqu'il y a peu une institution incontournable de la Ve République ne s'est penché de manière très significative sur ce musée. Donc je fais partie des gens qui l'auraient bien vu dans l'île de la Cité, puisque l'île de la Cité, tribunaux, police, hôtel Dieu, déménage en partie. Donc il y avait une occasion magnifique justement de le remettre au centre. C'est pas du parisianisme, parce que Saint-Germain-en-Laye, ça fait partie de la métropole de Paris, simplement on constate qu'on n'y va pas. Alors on va dire oui, Versailles aussi, c'est pas tout près, mais c'est autre chose et une autre manière de présenter pour les tours opérateurs. Donc effectivement, le fait qu'on n'utilise pas ces espaces qui se libèrent au moment même où on va parler d'identité nationale, des mauvaises, mais aussi pour des bonnes raisons, d'exalter le patrimoine, où on confie des missions à Stéphane Bern au hasard ou à d'autres, eh bien je trouve ça très très surprenant, enfin je ne suis pas le seul, qu'il n'y a pas plus d'efforts qui soient faits pour la réhabilitation de ce musée qui est effectivement extrêmement riche et qui est une porte ouverte sur notre patrimoine archéologique extrêmement important.
Et ce d'autant plus que ces collections complètent avec le Louvre et le Quai Branly au fond ce qu'une grande capitale.
Oui.
Comme Paris devrait offrir comme effectivement exposition de justement de l'histoire des civilisations. C'est comme s'il manquait au fond je veux pas dire la nôtre parce que après tout c'est un nous un peu large, mais enfin en tout cas cette archéologie nationale entre Lascaux et le Moyen-Âge.
Oui, vous avez tout à fait raison, Patrick Boucheron. Si on va à Berlin, il y a l'ensemble du monde est couvert, et aussi l'histoire de l'Allemagne, de la préhistoire, et de manière très, d'ailleurs très objective, très très sérieuse, et l'archéologie du territoire allemand actuel. Et c'est le cas à Prague, à Budapest, dans toutes sortes de, dans la plupart des pays. Là, il y a un vrai trou, et que nos politiques qui semblent s'y attacher à toutes sortes de choses, pour l'instant, n'ont jamais manifesté d'intérêt.
Alors, on entend votre souci, Jean-Paul Demoule, d'aller chercher ce qui articule le régime de nos savoirs avec les passions politiques qui les entraînent ou les inspirent ou parfois les rend possibles. En 2014, vous avez publié un très gros et important livre, « Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d'origine de l'Occident ». Alors là, on est un peu plus loin dans l'histoire, on est dans une histoire d'arbres aussi. La comparaison entre des arbres de parenté et des arbres linguistiques. Et c'est une vaste enquête qui va au cœur de nos passions identitaires.
Oui, bien sûr. Et c'est en même temps un problème archéologique qui hante l'archéologie depuis deux siècles. Donc je me suis intéressé très tôt, d'autant plus que j'étais aussi intéressé par les ouvrages ou l'enseignement de grands savants comme Georges Dumézil ou comme Émile Benveniste. Et donc je me suis penché sur cette question.
Alors rappelons laquelle, c'est-à-dire c'est l'hypothèse en fait que tous les peuples qui parlent une langue que les linguistes identifient comme indo-européenne auraient une origine commune.
Oui, puisque la plupart des langues de l'Europe, plus les langues d'une partie de l'Asie, Inde, hein, Pakistan, Afghanistan, appartiennent à la même famille linguistique. Donc, disons que dans leur structure, une partie de leur vocabulaire, ils sont plus proches qu'ils ne sont des langues sémitiques ou des langues sino-tibétaines. Donc, on a appliqué à ce constat qui se fait peu à peu au cours du XVIIIe et du début du XIXe siècle le modèle latin. C'est-à-dire la conquête de Rome a donné les langues romanes. Donc il suffit d'identifier un endroit d'où serait parti le peuple conquérant. Ça redoublait, c'était exactement le moment où les Européens justement partait à la conquête du monde au 19e siècle, et avec le souci donc d'expliquer ce destin jugé extrêmement particulier des Européens. Donc j'ai essayé de voir s'il y avait une explication archéologique qui tienne debout. À peu près tout a été proposé comme ce lieu d'origine, et je suis pour l'instant dans l'idée qu'effectivement, bien sûr, le fait que ces langues appartiennent à la même famille reflète forcément des réalités historiques, mais que le modèle est beaucoup trop simple, même en mettant entre parenthèses le fait qu'effectivement il a été détourné historiquement, le pire étant par le national-socialisme.
Et précisément avec une hypothèse très forte, Jean-Paul Demoule, dans ce livre, c'est de montrer que le sens de ce mythe d'origine pour les Européens, c'est de pouvoir se dispenser de devoir emprunter le leur aux Juifs.
Oui, bien sûr, parce que c'est une situation que j'ai qualifiée de schizophrénique. Tous les peuples du monde ont des mythes d'origine qui expliquent à chaque fois comment chaque peuple a été créé par une divinité et comment il est mieux que les autres. Le mythe d'origine de l'Europe chrétienne, c'est la Bible, donc les Juifs, donc ceux qu'on massacre dès qu'il y a un problème. Donc, situation intenable, et on voit que ça part effectivement de ce fond. Alors après, on peut dire oui, mais toutes les sciences ont une origine mythique, et après la vraie science se met en place. Le problème de la vraie science, c'est que archéologiquement, il n'y a toujours pas de solution vraiment convaincante, que maintenant la génétique s'en est mêlée, que effectivement elle peut éclairer dans certains cas des mouvements de population, mais on retombe souvent dans les mêmes ornières qu'au 19e siècle, où les formes de crâne s'étaient associées à des civilisations, des cultures. Donc là, on devrait avoir une adéquation entre un patrimoine génétique et un peuple, une culture, etc. Et plus on fait d'analyse génétique, plus on voit que les choses sont compliquées, mais la génétique, ça coûte cher. Les généticiens ont besoin de faire mousser leurs travaux, et donc il faut des résultats simples et faciles à comprendre.
Vous disiez tout à l'heure, Jean-Paul Demoule, que vous étiez un peu obsessionnel. C'est un livre un peu obsessionnel. C'est-à-dire qu'il vous a amené à lire une littérature parfois désagréable, et vous allez au front, vous allez au combat, vous avez un blog et vous affrontez aussi justement ces usages contemporains de l'histoire, de la préhistoire, de la proto-histoire, y compris dans leurs expressions les plus désagréables, les plus injurieuses. C'est ça aussi pour vous votre métier, notre métier.
Oui. Quand j'écrivais ce livre, et quand il fallait lire toute la journée Mein Kampf dans le texte, c'est effectivement désagréable.
Et de la On est bien loin de Toutankhamon.
Oui, très loin. Et lire la littérature d'extrême droite actuelle, on ne peut plus faire l'impasse, parce qu'ils sont très, très actifs, notamment sur Internet, ce qu'on appelle la fachosphère. Et pour répondre plus précisément à votre question, Patrick Boucheron, en tant que chercheur, nous sommes payés avec l'argent des citoyens, donc on doit certes se faire plaisir dans le métier qu'on a choisi, mais on a aussi une responsabilité d'explication et, comme vous le dites, de combat.
Merci Jean-Paul Demoule.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Jean-Paul Demoule, Philippe Mercher, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Joséphine Lampreya, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir Anne Le Herf. Bonne soirée.